À la poursuite du vers parfait, aujourd'hui ivresse, compassion et éloge de la poésie Tang, à lire comme une cérémonie magique avec Jean-Marie Gustave Le Clézio et Dong Chang.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. L'autre à Pékin, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dong Chang, bonjour, bienvenue à tous les deux. J'espère que vous m'entendez
bonjour.
Bien.
Bonjour.
Bonjour, je m'entends très bien.
Le flot de la poésie continuera de couler, c'est le titre de l'ouvrage que vous signez aux éditions Philippe Ray, Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui est une sorte de déclaration d'amour à la poésie Tang, avec la collaboration de Dong Chang, professeur, calligraphe, traducteur du français au chinois, je pense notamment à Baudelaire, et on reviendra bien sûr ce qui vous lie l'un et l'autre. La dynastie Tang, c'est presque 3 siècles, du 7e au 10e, et un flot donc ininterrompu de poésie, quelque chose de l'ordre du miracle, écrivez-vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Quelles ont été les conditions de ce miracle? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'un miracle, dès lors qu'on parle de poésie?
Oui, un miracle, oui. En fait, le grand miracle de la poésie Tang, c'est qu'elle a éclos dans un monde extrêmement brutal, extrêmement violent, la Chine de la dynastie Tang, même si elle a laissé la trace d'une ère de grande civilisation, a été aussi une période de combat, de guerre intérieure, une période extrêmement troublée. Et c'est dans cette période-là que sont éclos les poèmes les plus extraordinaires, les plus beaux de la poésie chinoise. C'est ça le miracle. C'est la poésie d'un côté et la violence de la vie de l'autre côté.
Alors justement, ce miracle ou ce contraste, peut-être, parce que vous le dites, sont 3 siècles, alors pas tous agités, mais au moins le 8e en tout cas, donc une cour prospère mais qui va connaître de nombreux empereurs et une impératrice, des intrigues, de la violence politique, de la violence sexuelle, cette guerre civile effroyable qui va coûter 30 millions de vies, dit-on, et puis cet art poétique, d'un raffinement, d'une élégance inouïe, ce qui fait que forcément on se pose la question de la place qu'occupent véritablement et les poètes et la poésie en ces siècles-là, sachant que poète et poésie, évidemment, ne veulent pas forcément dire la même chose.
Oui, ça pourrait être un contraste dévalorisant pour la poésie. On pourrait dire, oui, bon, c'est une poésie de l'élite, c'est une poésie aristocratique, et c'est une poésie qui n'a rien à voir avec le peuple. C'est tout le contraire. La poésie Tang, c'est ça qui est extraordinaire, et c'est là aussi le miracle, c'est que c'est une poésie qui parle pour tout le monde, qui parle pour le peuple tout entier. N'importe quel Chinois de l'époque Tang, mais encore aujourd'hui, peut lire un poème de cette période, comme la Bonne Pluie, un poème écrit par Tofu. N'importe qui peut lire ça à l'époque Tang, ou maintenant, et comprendre ce qu'il dit et être ému par cette parole. Donc c'est ça qui fait la valeur de cette poésie, c'est qu'elle ne s'adresse pas à l'élite, c'est pas une poésie réservée au happy few, c'est une poésie qui est destinée à tous les Chinois, à toute la Chine et au monde entier, en fin de compte.
Ce qui, d'une certaine façon, voudrait dire que la littérature atteint une sorte d'indépendance inédite à ce moment-là ?
Oui, sûrement, c'est un sommet de la littérature. Il y a eu d'autres sommets. L'Odyssée, c'est un sommet de la littérature grecque. Je dirais les tragédies shakespeariennes, c'est un sommet de la tragédie élisabéthaine, du théâtre élisabéthain. Il y a des périodes comme ça qui, c'est pour ça que je dis un miracle, on ne sait pas trop pourquoi, mais tout à coup, tout est devenu possible. Et dans le cas de la dynastie Tang, c'est la poésie et la calligraphie, les deux ensemble, parce que c'est aussi une période d'éclosion de la calligraphie, et Tong Xian va en parler sûrement, mais c'est cette conjonction de plusieurs arts différents qui fait que la poésie a cette valeur, a cette portée jusqu'à nous aujourd'hui, au XXIe siècle.
On va voir d'ailleurs justement que votre texte à vous, et puis celui de Dong Chang aussi, est assez resserré, relativement resserré autour du 8e, hein, même si il y est question d'autres siècles et d'autres poèmes. Qu'est-ce que c'est que d'être un poète au 8e siècle en Chine, Dong Chang ?
Ah ben voilà, je voudrais d'abord dire combien je suis heureux pour faire cette émission avec vous, avec Monsieur Le Clésio, parce qu'en fait, j'insiste, on a écrit ce livre avec un grand bonheur, et je voudrais d'abord faire partager ce bonheur. Donc être poète, pour vous répondre, au 8e siècle, 9e siècle, effectivement, comme dit Monsieur Le Clésio, c'est d'affronter en fait beaucoup de choses qui sont difficiles, la guerre, et puis un système en même temps impérial très très rigide, très très renforcé, donc dans lequel en fait ils sont presque dans un système. Alors le miracle dont parle Monsieur Le Clésio est effectivement que ces gens-là ont échappé en quelque sorte à ces régimes et ont trouvé une sorte de liberté totale, liberté d'expression et liberté dans la vie, etc. Et dans ce livre, en fait, il y a beaucoup de parties consacrées à Li Bai, par exemple. Eh bien, justement, c'est un homme qui est d'une grande, grande liberté. Voilà, donc ces gens-là ont été un peu forcés à passer des examens impériaux pour devenir mandarin. Tout le monde, vous savez, tout le monde est dans ce système, presque dans un régime. Et peu à peu, ils s'y échappent et chacun, justement, devient un esprit indépendant avec, justement, la poésie comme leur arme, comme leur moyen d'expression, comme Li Bai, c'est comme son épée. C'est-à-dire la poésie est devenue une manière pour eux, justement, de retrouver leur liberté.
On va y revenir, bien sûr. Tout à l'heure, ce qu'on entendait en tout début d'émission, si je ne me trompe pas, c'était une musique composée à partir d'un poème de Chang Zhouyou. Alors, c'est une musique que vous avez choisie, donc Chang, en me disant, à la préparation de l'émission, en me disant que ça pourrait faire une introduction idéal. En quoi ?
Ah, c'est la musique composée à partir d'un poème de Zhang Ruoxu qui a beaucoup plu d'abord à Monsieur Le Clésio, qui en a beaucoup parlé d'ailleurs dans ses conférences en Chine. C'est-à-dire, une description de quelqu'un qui est sous la lune devant le fleuve. Et qui fait des réflexions comme ça sur le temps, sur l'espace, presque sur l'origine de l'humanité, etc. Donc ça, c'est quelque chose de formidable parce que c'est on parle du temps, de la lune, des fleurs, et il y a une espèce de méditation, mais avec un rythme, avec on sent presque la fluidité d'un fleuve qui passe. Parce qu'un fleuve qui passe, c'est le temps. Confucius disait que, voilà, il se met au bord d'un fleuve et il pense, il réfléchit à la question du temps. Mais en même temps, avec ce poème, le temps est devenu atemporel. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a l'eau qui passe, il y a quelque chose qui reste éternel. Et ça, c'est quelque chose de formidable pour la poésie, parce que justement la poésie Tang, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment qui dépasse la temporalité, c'est quelque chose intemporel, et je dirais presque atemporel, et qui fait que cette poésie nous est encore très très proche et presque intime.
C'est ce qui vous fait d'ailleurs la relier à la poésie de Nerval, mais on va y revenir. On aurait pu aussi commencer par ce poème de Libaye, ce quatrain. Les oiseaux s'effacent en s'envolant vers le haut. Un nuage solitaire s'éloigne dans une grande nonchalance. Seuls, nous restons face à face, le monde Yingting et moi, sans nous lasser jamais l'un de l'autre. Avant que d'en parler, est-ce que je peux vous demander, Dong Chang, de bien vouloir nous le dire, je crois que vous le connaissez évidemment par cœur, nous le dire dans sa langue originelle.
Ah oui, volontiers, merci, parce qu'en fait c'est ce poème, si je, je comprends bien, qui a déclenché chez le jeune monsieur Leclédiou, justement l'envie de connaître mieux la poésie chinoise.
Absolument.
C'est un poème très très important qui a déclenché tout en fait. Alors en chinois, ça, ça serait quelque chose comme ça. 众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ce quatrain-là, assis devant le monde Yingting, fait, alors comme vous l'avez dit à l'instant, hein, Dong Chang, fait une sorte de matrice hein, ou de révélation pour vous, Jean-Marie Gustave Leclésio. C'est par là que vous entrez dans cette poésie-là. Par là et dans une traduction anglaise, je crois, et ça a son importance. Vous avez 20 ans. D'où vient qu'il vous sidère tant, ce quatrain-là, Jean-Marie Gustave Leclésio?
Bah, écoutez, je vivais à cette époque-là entre l'Angleterre et la France. Donc, par hasard, j'ai acheté une anthologie de la poésie chinoise, traduite en anglais. Je ne me souviens absolument pas de l'édition. Je n'ai pas gardé ce livre, mais pendant longtemps, je me suis baladé avec. Et bon, il y avait quelque chose d'exotique qui me gênait un peu. Moi, je n'aime pas l'exotisme. Et au hasard des lectures de ce livre, je tombe sur ce poème qui n'a absolument rien d'exotique. Ce poème qui dit simplement l'émotion... ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'infinitude que ressent un homme, un simple, n'importe qui, vous et moi, n'importe quel homme sur la terre, lorsque cette personne s'assoit et se contente de regarder une montagne. La montagne ne bouge pas, le spectateur, la spectatrice regarde la montagne, ne bouge pas non plus, et tout à coup il y a quelque chose qui... et qui fait qu'ils sont en fusion l'un avec l'autre. Ils deviennent, l'un devient la montagne, l'autre devient la personne qui regarde la montagne. Ça fait un tout. Et j'étais tellement ébahi par cette évidence, parce que ça a l'air comme ça très simple, mais en fait c'est quelque chose que peu de personnes peuvent raconter dans le détail. Et l'auteur de ce poème, qui est Li Bai, que je ne connais pas à l'époque, dit ça en quelques mots, avec une fulgurante simplicité. Et moi, j'ai été saisi par ça. J'ai eu l'impression que tout à coup, c'était une porte qui s'ouvrait et que je voyais mieux le monde. Et c'était juste un quatrain, quelques syllabes, et que je lisais en plus dans une langue qui n'était pas la langue d'origine. Donc, vous voyez, c'est une sorte de rituel, c'est quelque chose qui m'a complètement changé. Et à partir de là, j'ai pu commencer à lire les autres poèmes et au fond à écarter tout ce qui est exotique, tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui peut gêner dans la lecture d'une œuvre littéraire écrite dans une autre langue, tout ce qui peut faire allusion à des choses que je ne connais pas. Là, c'était très simple. C'était tellement simple que j'ai eu envie de faire comme lui. Je suis allé voir une montagne et j'ai ressenti ce que Li Bai avait ressenti devant le mont Yingting.
Oui, c'est ça. Hein. C'est que la lecture du quatrain va vous précipiter dehors pour aller rejoindre une montagne et vous asseoir face à elle. Li Bai, écrivez-vous, m'apportait autre chose à quoi je n'étais pas préparée par mon éducation, par mon langage. À quoi étiez-vous préparée?
Ben, en fait, quand vous avez 20 ans, en Europe, c'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour la France, vous êtes préparés à la philosophie européenne, à la philosophie, je vais dire ça entre guillemets, occidentale. C'est-à-dire qu'on vous apprend à raisonner, on vous apprend à apporter des preuves de votre existence et de l'existence du monde. Et là, Li Bai court-circuite complètement cette notion de preuve. Cette preuve, vous n'avez pas besoin d'elle. Vous avez simplement à regarder. Vous avez à devenir ce que vous regardez. Et ça, c'est c'est quelque chose qui m'a sidéré. Et ça m'a sidéré non pas parce que c'était en lien avec une philosophie orientale que je ne connaissais pas, mais parce que c'était une évidence. C'était une évidence que tout passait par le regard. Et ça m'a ensuite ouvert les yeux, si je peux dire, sur toute la poésie, pas seulement la poésie chinoise, japonaise ou la poésie indienne, mais sur la poésie en général. La poésie n'était pas une preuve, on n'apportait pas des preuves, on ne démontrait rien, on montrait et on rendait évident. Et c'est ça, au fond, qui m'a bouleversé à cette époque, c'est l'évidence.
Alors cette évidence-là, vous l'écrivez hein, dans votre livre, dans Le flot de la poésie continuera de couler. Vous l'écrivez comme un flot d'ailleurs, à la suite de ce quatrain. N'est-ce pas ce qu'il faut faire un jour, une fois au cours de sa vie, s'asseoir sur un rocher devant une montagne, n'importe quelle montagne, une grande et haute montagne neigeuse ou un mont arrondi émergeant des immeubles d'une ville, sous la voûte du ciel et des nuages, et rester immobile à regarder, sentir et éprouver, respirer, être un regard qui va et qui revient, être un avec elle, l'aimer, ne plus être seulement dans son corps, mais se séparer de soi pour s'unir à la montagne, immobile, révérer, révéler, regarder, aimer. C'est une poésie qui vous déplace, on l'a bien compris, mais c'est aussi une poésie qui va vous faire écrire.
Oui, et Tonkian, quand il vous entend lire cela, il doit reconnaître ce qu'il m'a raconté un jour à Pékin, comme quoi il avait ressenti la même chose, mais non pas devant la montagne de révérence, le mont Xinting, qui est une montagne imposante, impressionnante, mais devant ce petit monticule qui se trouve au milieu des maisons à Pékin, non loin de l'endroit où il travaille, non loin de son bureau. Donc on peut avoir cette illumination, on peut avoir cette révélation, cette révérence, cet amour, en fin de compte, on peut l'avoir n'importe où. Ce n'est pas besoin d'une grande montagne. Il suffit simplement de l'occasion et peut-être de l'aide de l'Ibaï. Il faut peut-être que l'Ibaï nous pousse par ses mots à ressentir cela. Donc, oui, c'est un poème qui ouvre les portes, c'est un poème qui permet d'entrer dans cet autre monde, ce monde extrêmement vaste, extrêmement puissant, qui est celui de la poésie de cette dynastie extraordinaire, la dynastie Tang.
Alors Libai, justement, occupe une place tout à fait centrale dans votre essai. Libai est au fou, hein, l'un n'allant pas sans l'autre. L'un le lunatique, l'autre le lucide, l'un l'aventurier, l'autre l'errant. Livre de Tao et de vin, et puis celui que vous appelez le gentilhomme confucianiste. D'un côté, peut-être, alors en schématisant vraiment la jouissance, la quête de la gloire, d'immortalité, et puis de l'autre, la rigueur morale. Est-ce qu'il faut les voir tous les deux comme étant complémentaires ou aussi radicalement opposés qu'ils en ont l'air?
Oui, ben je crois que c'est l'histoire d'une amitié.
Jean-Marie Gustave Leclésio, oui.
Oui, c'est l'histoire d'une amitié, c'est l'histoire de cette amitié improbable, difficile à imaginer entre deux hommes aussi différents, un peu d'abord séparés par l'âge. Libai est plus âgé que Tufu, mais ils sont tellement différents. Libai, justement, lui, n'a pas passé les examens. Et il a échappé à cette sorte de cycle infernal de l'examen poétique. Il a dédaigné cela. Il a jugé qu'il était au-dessus de l'examen. Donc, il ne l'a pas passé. Et Tufu, lui, l'a passé, mais il a échoué. Il n'a pas réussi à l'examen. Et imaginez les deux grands poètes de la poésie de la dynastie Tang qui ont échappé l'un et l'autre à ce carcan de l'examen poétique, c'est merveilleux, et ça ne pouvait que les rapprocher. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est leur différence de caractère, leur différence de tempérament. Mais puisqu'on parle d'amitié, je vais laisser à Tonkian le soin de parler de cette amitié extraordinaire entre Libai et Tufu.
Qu'est-ce qui les lie d'ailleurs profondément, ces deux-là, au-delà de l'ardeur au poème, donc Chang?
Je crois que vraiment c'est Monsieur Leclerc a très bien dit et puis il a vraiment bien parlé. J'ai beaucoup aimé vraiment cette partie où il parle de cette amitié entre les deux. Et puis les deux là, c'est comme vous dites, c'est vrai qu'ils ont un côté un peu presque opposé parce qu'ils sont très différents. Mais en même temps, c'est avec la tradition, au fil du temps, on s'est aperçu presque qu'il, en fait, il représente les deux tendances les plus importantes, si on peut dire, de la littérature en général. C'est-à-dire, vous avez toujours une tendance un petit peu romantique, un peu qui cherche un peu, disons, l'esprit, la spiritualité, au-delà, disons, de la vie terrestre. Et puis l'autre, le côté presque réaliste, c'est-à-dire qui va vers le sol, vers la terre, vers la vie, etc. Parce qu'en fait, en général, on peut même résumer l'histoire mondiale de la littérature comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours à un moment un courant qui est plus fort que l'autre, et puis l'autre courant arrive, et puis alternativement, en général. Et ces deux-là, vraiment, chacun, c'est très... représentatif d'un courant, mais en même temps ils s'admirent, et puis il y a quelque chose évidemment qui les lie, c'est que ils ont trouvé justement dans la poésie le meilleur moyen de s'exprimer, de se réaliser, et ça c'est en fait comme Libat est plus âgé que Dufou, il est plus célèbre que Dufou au début, surtout Dufou était encore un débutant et Libat était déjà une célébrité, donc Dufou l'admirait presque tout simplement comme un jeune littérateur peut admirer un grand maître. Mais en même temps, avec le temps, je crois que Dufou a développé vraiment son propre art et son, disons que une sorte de ressourcement dans la vie, hein, l'a tellement fortifié, a donné une étoffe tellement forte que la poésie chinoise a repris une autre dimension et presque la dimension d'un grand historien, parce que les poèmes laissés par Dufou nous fait vraiment connaître l'époque. C'est pour ça qu'en Chine on dit que il a laissé la poésie histoire ou de l'histoire poétique, c'est-à-dire comme voilà une sorte d'épopée, mais pas vraiment épopée au sens de Homère, mais vraiment avec des poèmes très concrets. D'ailleurs, Monsieur Le Clézio a fait des belles analyses de beaucoup de poèmes de Dufou. Hein. C'est-à-dire, ce sont des scènes, des morceaux de vie saisis sur le vif,
comme et des
à
chroniques.
Partir duquel il fait des expressions, il développe des sentiments et des compassions, etc. Donc voilà, il a donné une autre dimension à la poésie.
Alors on va venir bien sûr à Dufou, peut-être juste un mot encore sur Libai, difficile de parler de lui sans parler d'Ivresse, bien que je pense qu'il a été compagnon également de Beuvry un temps de Dufou. Il écrit « On a bien dit qu'un vin léger est un saint et qu'un vin fort est un sage. Puisque j'ai bu le sage et le saint, à quoi sert-il encore de chercher les immortels ? Trois coupes et je maîtrise le Tao, une jarre pleine et je ne fais qu'un avec la nature. Quand on saisit l'esprit de la boisson, à quoi bon expliquer à celui qui est sobre ? Comment est-ce qu'il faut entendre cette ivresse, Jean-Marie Gustave Le Clézio ? Est-ce que, alors, pour une part, probablement, il y a une forme de divinisation de la boisson, mais l'ivresse, est-ce qu'elle voudrait dire aussi autre chose ? C'est elle qui inspire, mais pas seulement. Quelque chose qui pourrait éventuellement avoir à faire avec le Tao.
Oui, oui. Ça, en fait, on retrouve ça chez des poètes du monde, toujours entre guillemets, occidental. Quand vous lisez Baudelaire, c'est l'éloge également de l'ivresse. Et, vous lisez Rimbaud, c'est un autre type d'ivresse. Et vous lisez la poésie d'Edgar Poe. Edgar Poe, il était au moins aussi alcoolique que Libat. Et donc, il y a dans toutes les époques, il y a des poètes qui ont cherché, en utilisant certains moyens. Dans le cas de Libat, c'est l'alcool. Dans le cas de Michaud, c'est la mescaline. Ils ont cherché un moyen de sortir d'eux-mêmes. Et pour Libat, ça se joint avec cette sorte de culte qu'il a de l'immortalité. Il pense que le but de la vie d'un poète, de tout être humain, mais particulièrement d'un poète, c'est d'atteindre ce stade de l'immortalité, où on ne périra plus. On rejoindra, dans le ciel, puisque c'est là qu'ils habitent, on rejoindra ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont ouvert la voie vers l'immortalité. Et donc le vin, c'est un moyen d'atteindre ça. Mais et puis c'est aussi c'est un vice également, il ne faut pas le cacher. Libye est un alcoolique, c'est un homme qui aime, il aime boire et il boit quelquefois jusqu'à oublier qui il est, il boit jusqu'à mépriser au fond les aléas de la vie quotidienne. On l'attend auprès d'un prince pour qu'il lise de la poésie. Bon, il ne va pas là parce qu'il est trop ivre. Et puis on insiste. Alors il s'adresse à un des eunuques qui est là. Il dit bah, mets-moi mes bottes que je puisse aller lire de la poésie. Il arrive. Il est soutenu par d'un côté et de l'autre. Et là, tout à coup, là, quand il commence à lire, il oublie l'ivresse et il atteint une autre forme d'ivresse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'étonnant et c'est quelque chose de récurrent dans la poésie, ce besoin d'atteindre un absolu. Ça existe aussi dans la poésie persane. Les grands poètes persans ils ont utilisé le vin comme une allégorie, comme une sorte de moyen d'atteindre l'absolu, d'atteindre le divin, sans jeu de mots.
Alors, version aussi peut-être plus terrestre, Jean-Marie Gustave Le Clézio, vous souhaitiez entendre, ou à défaut de l'entendre, le lire. Alors, je ne sais pas si vous l'avez devant vous, un poème en particulier de Libye qui s'appelle « Tristesse de l'escalier de jade hein. ».
Je ne sais oui, pas attendez, si... je peux le chercher, j'ai le livre, alors je vais le chercher.
Alors, j'aurais peut-être dû, moi, noter. Oui. Alors, je l'ai sous le nez, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas la page.
Oui, attendez. Voilà, Tristesse de l'escalier de jade. J'insiste sur le fait que c'était la traduction de Tongxian, qui est un peu différente de des traductions que j'avais lues en anglais, et qui est beaucoup plus claire dans la traduction de Tongxian. Donc, Tristesse de l'escalier de jade. Les rosées blanches d'automne germent sur l'escalier de jade. Ses pantoufles de soie sont trempées dans la nuit est profonde. Alors, elle rentre à l'intérieur, et le volet de cristal baissé, elle ne détourne pas son regard de la lune toujours aussi pure. Donc ce poème, c'est une énigme. Ça décrit la tristesse d'une femme qui a attendu son amant toute la nuit. Et ce rideau de cristal sur lequel coulent les perles de rosée, ce sont ces cils sur lesquels coulent des larmes. Donc il y a deux sens au poème, un sens littéral et puis un sens qui est beaucoup plus vaste, qui est celui de la difficile condition des femmes à son époque. Les femmes attendent, les femmes ne sont pas, elles n'agissent pas dans la vie ou très peu. Et elles sont toujours, à un moment donné de leur vie, victimes des hommes et victimes de l'amour qu'elles portent aux hommes. Et Libye, avec beaucoup de compassion, décrit la froideur de cette attente dans la nuit, la rosée qui mouille les pieds, les pantoufles de cette femme qui attend, et ses cils sur lesquels coulent des larmes. Ça fait un portrait presque surréel, de cette tristesse. Ça donne un sens, une dimension tout à fait étonnante à ce sentiment de tristesse. Donc j'aime beaucoup ce poème.
Et si c'est un poème qui fonctionne comme une énigme à résoudre, d'ailleurs souvent dans les poèmes de cette époque-là, et même après, même avant, c'est souvent dans le dernier vers qu'arrive la résolution. Vous écrivez, en les abordant, ces poèmes, on est sur le seuil. Qu'est-ce que ça demande au lecteur? Qu'est-ce que c'est que de lire ces poèmes-là? Vous parlez d'une sorte de cérémonie magique, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui, j'aime bien l'idée d'être sur le seuil. Parce que d'abord, le seuil, c'est très important dans la culture chinoise. Mais enfin, je ne vais pas insister sur ce que je connais de la culture chinoise, parce que c'est très peu. Mais j'aime beaucoup l'idée que la poésie Tang, de la dynastie Tang, nous amène à un endroit où nous pouvons quitter le lieu où nous sommes, c'est-à-dire ce 21e siècle assez mécanique, très rationaliste et très matérialiste, et être au bord de cet autre monde, ce monde qui a précédé, ce monde qui est celui des poètes de l'époque de la dynastie Tang, dans lequel on vit pour des idées, on vit pour des sentiments, on vit pour des moments de grande jouissance, des moments de bonheur intense, et puis des moments de tristesse infinie, où comme dans le cas de Tu Fu, on vit pour essayer de s'échapper à la condition, la terribles conditions que causent les guerres dans l'Empire à ce moment-là. Donc, être sur le seuil, c'est être encore un peu dans notre monde et être déjà un pied de l'autre côté, du côté de ce monde tout à fait étonnant, tout à fait éblouissant qu'est le monde de cette dynastie exceptionnelle.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et toujours avec Jean-Marie Gustave Le Clézio et Dong Chiang, toujours au cœur de la poésie. Tang, vous parliez d'une façon de s'échapper de la réalité, alors peut-être alors par l'ivresse d'une certaine façon, mais de s'échapper des souffrances de la réalité pour ce qui est de Doufou. Est-ce que ça voudrait dire, si on vous suit, hein, si on suit tout votre texte dans le flot de la poésie continuera de couler, que la poésie Tang est d'abord un art de la réalité, ou en tout cas se dirige vers un art de la réalité? Il s'agit d'abord de voir et dire. Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui, certainement, vous avez raison de parler de la réalité, mais il y a quelque chose qui est, à mon avis, qui dépasse le simple réalisme. Ce n'est pas une poésie réaliste, c'est une poésie qui est assez structuré, assez complexe dans sa création. Donc on n'est plus vraiment dans la description banale du réel, mais c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui nous illumine, qui nous emporte. Et moi, je voudrais dire le bonheur que c'est de lire cette poésie, parce que c'est une poésie qui ne s'arrête pas à un événement, qui ne s'arrête pas à une pure description. On a souvent tendance à considérer un peu avec scepticisme, justement parce qu'on met trop d'exotisme, la culture orientale et particulièrement la culture chinoise, en disant oui, mais on manie beaucoup les fleurs, on manie les plantes, et ça reste assez superficiel. En réalité, c'est que c'est une poésie qui est inspirée, c'est une poésie qui met des sentiments et qui est fondée sur les sentiments. Alors, la réalité est-elle faite de sentiments? C'est toute la question. Moi, je pense que la réalité que décrit la poésie de la dynastie Tang, en particulier la poésie décrite par Li Xiangyin, par Doufou et par Li Bai, c'est une poésie qui est une poésie de sentiments, de sensations et de sentiments. Et c'est pourquoi elle est tellement agréable et tellement émouvante à lire à notre époque, parce qu'il n'y a rien de plus durable que les sentiments. Les réalités passent, mais les sentiments, eux, demeurent. Et c'est ça, cette force.
Alors, agréable, Jean-Marie Gustave Le Clézio, et en même temps, dans votre texte, Dong Chiang, vous parlez de ces poèmes comme pouvant potentiellement effrayer une sensibilité actuelle, notamment, puisqu'on parlait de description, puisqu'on parlait de simplicité apparente, de ce que vous détaillez comme étant la notion de fadeur, sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez, si vous le voulez bien, qu'il faudrait voir comme une sorte de qualité suprême des poètes chinois. Comment la faire entendre, comment en décrire la vertu à des oreilles, à des yeux occidentaux?
La fadeur est une notion que Jean-Pierre Richard a développée à partir, si je ne me trompe pas, de la poésie de Verlaine. Il a écrit un très beau texte sur la fadeur. Ben, chez Verlaine, l'idée, c'est que, en fait, Jean-Pierre Richard veut dire que chez Verlaine, les sentiments ne sont pas immédiats. Il n'y a pas une fraîcheur de sentiments. On a l'impression que c'est quelque chose qui est presque fané dans le sens qui est déjà passé, mais qui ressort dans la poésie de Verlaine. Alors, après, évidemment, il y a le philosophe, sinologue François Julien qui a repris cette notion de fadeur pour développer sa théorie de l'esthétique chinoise. Et lui, il pense que les Chinois ont une tendance à développer une esthétique de fadeur, dans le sens de pas chercher une saveur trop forte. Parce que dans l'art occidental en général, dans la poésie en particulier, il y a des moments où l'on cherche des choses, disons, extraordinaires, de très fort, des sensations très fortes. Alors que dans la poésie chinoise, on n'essaie pas d'impressionner. On n'essaie pas de trouver des choses vraiment qui est capable de vous donner des sensationnels, de faire de sensationnels. On saisit quelque chose d'essentiel et on laisse justement s'épanouir tranquillement et on laisse cette poésie vous influencer, mais presque en douceur. C'est un peu comme comme décrit justement la pluie printanière de Doufou, c'est-à-dire c'est une pluie qui nourrit qui nourrit la terre, qui nourrit toutes les plantes, mais avec une douceur sans s'imposer. Et la poésie tangue, c'est comme ça aussi. Et elle vous impressionne, elle vous entre en vous, mais sans agression, sans taper l'œil, sans chercher du sensationnel. Et c'est ça la fadeur. C'est-à-dire il y a une sorte de quelque chose de très, une simplicité presque poussée à l'extrême. Vous savez, parfois, donc, lorsqu'un lecteur occidental lit un poème, il va trouver ça, alors littéralement fade, en disant, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que, en Occident, on cherche ce qui se cache derrière. Alors que parfois, la vie est avec une simplicité, mais justement avec une vérité presque évidente, dont parle Monsieur Ecclésio avec sa lecture de cette poésie, il y a une évidence, une évidence de beauté, une évidence qui fait qu'on veut justement se communiquer avec cet univers, avec cette montagne qui est en face de nous. On n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de chercher ce qui est derrière. Donc voilà, donc c'est ça qui est en fait qui rend cette poésie à la fois donc très très disons presque facile d'accès, mais en même temps difficile d'accepter pour l'Occident, et surtout avec la traduction parce que vous savez une fois traduit, c'est comme si c'est quelque chose qui est déjà digéré presque par un traducteur. Et alors là, évidemment, le vrai goût, c'est difficile de le retrouver. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très très subtil. C'est-à-dire il faut que le traducteur soit très très humble, qu'il soit transparent, qu'il laisse vraiment entièrement cette fadeur ou cette saveur non sensationnelle, hein, soit cette saveur presque naturelle. Eh bien, il faut la laisser apparaître et vous parler et puis vous entrer en vous, etc. Voilà, donc c'est ça qui rend cette poésie extrêmement difficile à traduire.
Alors, on va revenir bien sûr à la traduction, mais pour ce qui est de cette saveur non sensationnelle, ce qui est frappant par exemple chez Doufou, c'est qu'elle est là de la même manière, c'est-à-dire avec cette évidence, cette façon de ne pas s'imposer, y compris lorsqu'il s'agit des poèmes ou des vers les plus tragiques, y compris lorsqu'il s'agit de chroniquer la guerre, hein, qui sont des vers qui sont très lucides. Je pense en particulier à un poème extraordinaire qui s'appelle « La troupe des recruteurs au village de la Butte aux Pierres », que vous traduisez et retranscrivez dans le livre « Le flot de la poésie continuera de couler ». Ce qui nous amène peut-être à une autre notion assez fondamentale sur laquelle vous revenez à plusieurs reprises, Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui est celle de la compassion. Vous en faites l'identité même de la poésie tangue. Alors peut-être en s'appuyant davantage sur Doufou, mais vous en faites quand même une valeur qui va venir irriguer ces trois siècles de poésie tangue. Qu'est-ce que c'est que cette compassion dès lors qu'on parle de poésie et en quoi serait-elle révolutionnaire peut-être ?
Oui, c'est un des mystères de cette génération, enfin de cette suite de dynasties. Et il ne faut pas oublier qu'elle est née tout de même d'une personne assez étrange, assez étonnante, qui a fait parler d'elle comme la seule impératrice que la Chine ait jamais eue. C'est l'impératrice Wu Zetian. Et cette impératrice a en quelque sorte imposé le bouddhisme à la Chine. Donc, nécessairement, elle a imposé une des notions fondamentales du bouddhisme, qui est justement la compassion, l'émotion qu'on doit ressentir envers les autres et la nécessité de partager les souffrances des autres et les malheurs des autres. Donc, c'est vrai que, étant née, la dynastie est née de cette impératrice qui a été à la promotion de la du bouddhisme en Chine a instauré une onde de compassion, et que cette suite de poètes de la dynastie Tang a exercé cet art de la compassion avec plus ou moins de conviction. Et
qu'est-ce que ça veut dire, plus ou moins de conviction?
Non, parce que Tu Fu, il est évident qu'il partage vraiment ce sentiment de compassion. Peut-être parce qu'il vit lui-même une vie très difficile. Il fuit la guerre avec sa famille, mais il a un de ses enfants qui meurt de faim, une petite fille qu'il transporte dans ses bras qui ronge sa main tellement elle a faim. Donc il relate ça, et on ne peut pas ne pas être ému par ce poème de Tu Fu. Li Bai, lui, est un homme indépendant, c'est un aventureux, c'est un homme qui il aime sa famille, il aime profondément ses enfants, et très fréquemment il regrette d'être loin de ses enfants, mais en même temps on a l'impression qu'il est guidé par son épée plus que par quoi que ce soit d'autre. Il a envie de se confronter à la politique, il a envie d'exister dans ce monde turbulent dans lequel il vit. Et donc la compassion est peut-être pas le sentiment premier qu'il éprouve, bien que par moments ça passe, parce que certains moments de la guerre, je crois que personne n'a écrit des choses aussi fines sur la tragédie de la guerre, lorsqu'il parle de cette vieille femme qui est assise à côté de lui dans la nuit et qui est en train de préparer du riz sur un plateau. Et lorsqu'elle a fini de préparer ce riz dans la nuit glacée, elle donne le riz à Li Bai, et Li Bai refuse. Il dit non, je ne peux pas faire autrement que refuser ce riz, parce que ça implique tellement de souffrance, chacun de ces grains de riz implique tellement de souffrance que je ne peux pas manger comme ça ce qu'a préparé cette vieille femme pour moi. C'est trop, et il se sent coupable en quelque sorte d'être vivant et d'être un homme fort et agressif dans un monde où les femmes sont tellement malmenées par l'existence. Donc Li Bai, de temps en temps, fait preuve de ce sentiment de compassion, mais c'est un sentiment qui n'est pas lié au bouddhisme, c'est lié à sa personnalité propre. Li Bai est un homme de l'Ouest, c'est un homme qui laisse passer. On parle de fadeur, mais c'est vrai que il manie aussi admirablement la fadeur. Il y a ce poème extraordinaire de Li Bai, dans lequel, au cours de ses déplacements, il est aussi ballotté par la guerre. Il est dans une maison, et la seule chose qu'il voit, c'est dans le ciel, à travers, j'imagine, les ouvertures du toit, il voit la lune qui brille dans la nuit. Et cette lune fait une sorte de flaque au pied de son lit. Et au début, il pense que c'est une flaque de givre. Et il lève la tête, il regarde la lune, ah bon, c'est la lumière de la lune. Et puis il baisse la tête et il pense à sa maison. Et en quelques mots, il a dit tout ce que peut éprouver un homme comme lui dans cette situation de solitude, loin de sa famille, dans les événements terribles qui l'entourent. Donc la fadeur est quelquefois mêlée à ce sentiment de la compassion, à ce sentiment de partager avec les autres un moment très difficile.
Alors cette solitude, justement, elle donne lieu à un poème que vous partagez d'une certaine façon, tous les deux, qui est important pour les deux, pour différentes raisons, qui est un poème de Fou, hein, c'est ce qui s'appelle « À la vue des Lucioles », et qui dit ceci « Une nuit d'automne près du mont Wu, s'envole des Lucioles, traversant le rideau, elle se pose sur les habits de l'homme assis. Celui-ci ressent soudain le froid qui touche déjà le luth et les livres, et voit à travers leur agitation quelques étoiles au bord du toit. Il sort et les suit jusqu'au puits où elles dansent avec leurs reflets. Sur le passage, elles s'attardent et illuminent les étamines des fleurs. Cheveux blancs, fatigués des fleuves, l'homme se lamente. Regarde-toi, vieil homme, seras-tu toujours là à contempler ces lucioles l'an prochain ? Ce poème-là, vous y revenez, donc Chang, dans votre texte à vous, hein, dans le flot de la poésie continuera de couler, puisque c'est un poème que d'une certaine façon, Jean-Marie Gustave Le Clézio vous ramène, alors que vous êtes tous les deux en visite chez Dafou, et que Jean-Marie Gustave Le Clézio cherche le puits, demande où se trouve le puits, et vous fait découvrir ce poème, d'ailleurs en anglais hein, à ce moment-là, et le soir même dans votre chambre d'hôtel, vous le calligraphiez encore et encore, ce poème-là, hein, à la vue des Lucioles. On peut d'ailleurs en voir un exemple dans le livre. Qu'est-ce que cette opération-là, ce soir-là, vous permet de vivre ? Est-ce qu'en passer par la main, par la calligraphie, par la ligne, est-ce que c'est encore lire, hein, tracer et retracer ? Est-ce que c'est relire le poème ?
Oui, oui. Donc, c'est un moment extraordinaire parce que moi, on a visité ensemble la maison de Toufou et soudain, M. Le Clézio me pose la question où est le puits. Alors, tout le monde était étonné, mais quel puits? Et là, il m'a expliqué qu'il a lu un poème et il m'a récité en fait en anglais. Et j'ai retrouvé donc le poème que moi je connaissais pas du tout, hein. Donc je crois que même les gens qui étaient avec nous, les Chinois, certains spécialistes, qui ignoraient ce poème. Alors, du coup, le soir, effectivement, j'ai retrouvé ce poème. Et là, il y a une vraie émotion, parce que d'abord, je découvre et redécouvre Toufou à travers, si j'ose dire, un français, c'est quand même formidable. Et puis, en écrivant, parce que là, à ce moment-là, j'ai pas mon pinceau, hein, j'avais pas mon pinceau, donc je fais avec un stylo sur juste papier de l'hôtel, mais j'ai tracé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'en faisant ça, je revois Toufou presque, je revois cette maison, cette maison elle commence à avoir un autre sens, et c'est tellement vivant, et puis on suit le mouvement de cet homme qui suit le mouvement des Lucioles, et qui, voilà, de cette scène presque naturelle, eh bien, pense à sa propre vie, à toute sa vie, et puis à toute l'époque dans laquelle il vit, etc. Et c'est ça la force d'un poème. Il y a une scène ou un petit événement de la nature, et là, ça suscite toute une, tout un sentiment, justement, de l'auteur, et il le décrit d'une façon tellement simple, hein, et tellement, vivant. Il nous met vraiment en scène, hein, cette scène qu'il vit. Et là, soudain, comme ça, en retraçant ce poème, moi j'ai l'impression d'être devant cette maison et suivre de la main et du regard tout ce qu'il fait avec ses lucioles.
Alors là, ça n'était pas le cas donc dans cette chambre d'hôtel, mais calligraphier ces poèmes pour Jean-Marie Gustave Le Clézio, c'est un peu le point de départ hein, au fond de ce livre. Et à ce sujet, on écoute une musique que vous avez souhaité nous faire entendre. C'est traduit par le connaisseur de son. Qu'est-ce que cette musique qu'on vient d'entendre, donc Chang, partage ?
Il y a une musique donc très très connue en Chine. C'est justement, c'est raconte l'histoire d'un compositeur qui a fait une musique et puis après un jour il a rencontré un bûcheron qui l'écoute et puis le compositeur est très très étonné par l'attention que lui porte ce bûcheron en disant mais qu'est-ce que vous découvrez dans ma musique. Eh bien là le bûcheron dit voilà, pour moi c'est peut-être en train de juste en faire une musique qui révèle la montagne et de l'eau qui coule. Et là le compositeur, mais c'est formidable, vous connaissez vraiment ma musique, vous êtes un connaisseur de son, un connaisseur de ma musique. Et donc désormais cette histoire est devenue une légende qui raconte justement l'amitié, c'est-à-dire des vraies amitiés, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de comprendre l'autre. Et surtout, c'est presque un symbolisme le lien entre un lecteur et un artiste, ou bien entre les artistes, entre les amis, etc.
Alors, entre vous, justement, alors je crois que c'est une amitié de presque 30 ans maintenant. Donc, je ne sais pas si c'était une amitié justement entre un lecteur et un écrivain, entre peut-être même entre deux écrivains, parce que je crois que tout est parti d'une histoire de manuscrit. Sur quoi est-ce que vous vous êtes retrouvés l'un et l'autre ?
Oui, je vais.
Je dois dire que je suis un grand admirateur. Je suis un grand admirateur de la littérature d'abord de Monsieur Le Clézio. Donc ça, c'est très bonne base. Je suis le bûcheron qui prend d'abord le compositeur.
Je n'osais pas vous le demander. Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui, je crois que ce qui m'a séduit dans le caractère de ton chien, c'est à l'époque j'étais beaucoup moins âgé que je le suis maintenant. Mais lui était vraiment très jeune. C'était un tout jeune homme qui venait à Paris. Et avec beaucoup d'audace, a soumis un manuscrit aux éditions Gallimard. Moi, j'ai lu ce manuscrit et j'ai dit aux autres lecteurs de chez Gallimard, mais il faut publier ça, vous ne pouvez pas manquer ce texte. Ça a été écrit par un jeune Chinois qui l'a écrit directement dans la langue française. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, ils n'ont pas osé se lancer dans l'aventure, mais ça a été le départ d'une autre aventure, celle de notre amitié à ton sien et à moi-même, et nous sommes restés en relation avec, par moments, nous étions un peu plus loin l'un de l'autre parce que géographiquement, nous ne nous voyons pas, mais nous nous revoyons avec régularité, quelquefois même au hasard dans les rues du quartier latin. Je rencontrais ton sien et tout à coup, on recommençait à parler comme si on s'était vu la veille. Et donc, comme je savais que c'était un calligraphe de grande qualité, moi j'ai eu tout de suite envie de travailler avec lui sur la poésie, et parce que je crois que la calligraphie c'est absolument consubstantiel à la poésie chinoise, non pas que elle puisse pas se traduire, mais si on n'a pas quelque admiration pour l'acte d'écrire, on ne peut pas comprendre la poésie de la dynastie Tang et la poésie chinoise en général. Parce que c'est cette forme de la calligraphie, ça rend apparent une sorte de danse visuelle que le son des mots ne donne pas seulement. Mais les poètes de la dynastie Tang avaient toutes sortes de cordes à leur arc, puisqu'ils jouaient aussi de l'instrument qu'on vient d'entendre. Ils ne récitaient pas leur poésie, ils la chantaient. Ils chantaient leurs poèmes accompagnés par cette sorte de harpe qui est caractéristique de l'époque classique chinoise, et ils l'illustraient au moyen de la calligraphie. Et la calligraphie était pour eux un art tellement important qu'ils ne pouvaient pas imaginer ne pas écrire leurs poèmes. Et en même temps qu'ils écrivaient, quelquefois ils dessinaient. Il y a un poète qui s'appelle Wang Wei qui est connu pour avoir été aussi un des très grands peintres de la dynastie Tang, et qui n'illustrait pas ses poèmes, mais il écrivait et il dessinait en même temps. Et j'imagine qu'il chantait en même temps. Donc c'est cet art complet qui m'a séduit. Et je crois que j'ai beaucoup aimé entretenir cette amitié avec ton sien, parce que petit à petit, j'ai découvert la signification de cet art, qui n'est pas un art exotique, encore une fois, qui est quelque chose de profond, quelque chose de vrai, qui s'apparente à une très très grande culture, la culture chinoise qui est, comme chacun sait, l'une des plus anciennes de l'histoire du monde.
Alors il s'agit de la faire venir jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'il s'agit de la traduire, ce que vous avez entrepris hein, pour l'écriture de ce flot de la poésie continuera de couler, qui est vraiment irrigué par des poèmes traduits, par des extraits de poèmes, par des vers parfois, par l'ensemble du poème à d'autres endroits. Et sous l'ère Tang, le quatrain, qui est donc la forme consacrée, se fait, disons, plus sophistiqué, plus virtuose peut-être, et en même temps infiniment ouvert, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il va être composé de 7 caractères, hein, quand auparavant il était de 3, 4 ou 5. Et puis il y a évidemment cette langue chinoise sans article, sans conjugaison, presque sans pronom personnel, c'est-à-dire sans personnalisation, sans temps, sans causalité. Et puis cette alternance d'accent fort et d'accent doux. Comment le français se débrouille-t-il de tout ça, Dong Chang?
Oui. Moi, je vais juste rebondir un petit peu par rapport à ce que vient de dire.
Je vous en prie.
C'est-à-dire que la poésie, en fait, c'est pas seulement juste les mots, seulement juste du vers. Hein. C'est-à-dire ce qui est formidable en Chine, c'est la poésie est presque, je veux dire, omniprésente dans la calligraphie, dans le geste. Là, je me trouve dans la ville de Suzhou, là où il y a l'université Suzhou avec un très bon département de français. Et ici, c'est la ville de jardin. Et dans les jardins, on sent qu'il y a un art de même jardinier qui est presque un art poétique. Et puis, il y a partout, il y a des panneaux avec des calligraphies. Et dès qu'on voit un panneau de calligraphie, c'est presque un morceau de poésie ou un pan de poésie qu'on croise, vous voyez. Voilà, donc ça c'est formidable, c'est-à-dire cette poésie est restée vraiment dans la vie partout, quoi. Alors pour répondre à votre question, effectivement c'est une forme de poésie qui est bien développée, un quatrain, 7 caractères, avec un système de surtout de rythme et d'accent fort et d'accent faible, et qui rend cette d'ailleurs comme les poèmes étaient chantés, donc voilà, il faut rendre cette musicalité. Alors évidemment c'est en chinois c'est 2 accents forts et puis après 2 accents faibles et après ça on reprend 2 accents forts et puis on finit par un accent faible et puis après on repart avec presque en parallélisme, là où c'était fort, ça devient faible. Et puis après, au troisième vers, on termine par un mot sûrement avec un accent très fort. Et on finit par un quatrième vers, le quatrième vers, qui est par un accent faible. Donc il y a une sorte de douceur, et puis après on renforce, et après on finit par une sorte de douceur. Donc qui donne une forme très équilibrée. Voilà, mais évidemment dans la traduction en français, c'est ce genre de choses, vous savez, c'est toujours le plus difficile à traduire. Mais en même temps, je crois que justement, comme a très bien dit Monsieur Leclésio, ce qui est fort dans cette poésie et ce qui le fait échapper aux contraintes de l'espace et du temps, c'est le sentiment. Le sentiment, puis les images, les images non pas au sens de l'image pure ou abstraite, mais les images de la scène, comme dans le poème de Du Fu, la vue des Lucioles, ces choses tellement vivantes qu'on partage même aujourd'hui. Voilà, c'est ça la force de cette poésie, donc je crois que c'est ça qui est essentiel.
Qu'est-ce qui ferait alors du quatrain qu'est-ce qui ferait que le quatrain correspond si bien à ce que vous appelez la nature profonde de la langue chinoise, si tant est qu'on puisse parler de nature profonde d'une langue?
Pour être très simple, pour simplifier, c'est qu'en fait le chinois a 4 tons, hein, a 4 tons, et dont 3 tons qui sont des accents relativement faibles, et il y a un quatrième ton qui est très fort. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, il faut justement pour équilibrer ça, eh bien, je crois que les poètes Tang, ils ont retrouvé une sorte de forme qui correspond mieux à notre respiration, à notre manière de dire. Voilà. Donc c'est pour ça que cette forme et même aujourd'hui, les enfants quand ils apprennent un poème Tang, eh bien, mémorise très très vite parce que ça correspond à, justement à une sorte de rythme, à un souffle, à une respiration chinoise.
Alors je vous engage vivement à la mémoriser donc, et à lire. Le flot de la poésie continuera de couler. Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dong Chiang, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de France Culture, à la page de l'émission, à réécouter, partager et podcaster, ainsi que sur l'appli de Radio France. La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.